Avec l'assurance mixte, protégez celles et ceux qui vous sont chers grâce à Sounou Assurance qui vous propose Priorité Santé. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Juan Gomez.
Bonjour à tous, ravi d'être avec vous dans le studio de Priorité Santé. Alors c'est une grande première pour moi, je vais essayer évidemment de faire aussi bien que ma camarade Caroline Paré qui doit probablement nous écouter au fond de son lit. Je la salue et lui souhaite un bon rétablissement en espérant évidemment qu'elle sera de retour demain en pleine forme. Nous sommes le jeudi 1er février et comme tous les premiers jeudis du mois, vous le savez, vous avez le privilège de dialoguer en direct avec le docteur Catherine Solano, médecin, sexologue. Catherine qui a l'habitude de dire que la sexualité c'est merveilleux, mais qu'elle n'est pas toujours simple à vivre. Alors comment avoir une vie affective et une sexualité épanouie lorsqu'on souffre d'une maladie chronique ou d'un handicap? Comment, dans une telle situation, peut-on ressentir du désir et se sentir désirable? Le sujet n'est pas tabou, on en parle ce matin sur l'antenne de RFI. Bonjour Catherine Solano.
Bonjour Juan.
Et nous allons surtout, Catherine, nous intéresser justement à ces difficultés sexuelles qui sont liées à la maladie, aux situations de handicap, car oui, même dans ce cas, nous avons le droit d'aimer et d'être aimé. Alors appelez-nous, vous qui nous écoutez, vos témoignages nous intéressent. Catherine Solano attend évidemment vos questions. Elle vous aidera à trouver des solutions pour minimiser ces effets négatifs. 33-1 84 22 75 75, vous connaissez le numéro par cœur, moi je le découvre en même temps que je vous le donne, 33 1 84 22 75 deux fois, et n'oubliez pas évidemment la page Facebook RFI Priorité Santé. Catherine, beaucoup d'appels ce matin, mais comme à chaque fois que vous êtes dans ce studio et que vous dialoguez avec les auditeurs de RFI, nous accueillons pour commencer Mamadou, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour docteur Solano.
Bonjour Mamadou.
Vous nous appelez de Bamako, au Mali, nous vous écoutons.
En fait, je porte une prothèse depuis une semaine. Et du coup, je voudrais savoir si ça n'aurait pas d'impact sur ma sexualité, bien évidemment.
Et cette prothèse, vous la portez où exactement?
Au niveau de la hanche, prothèse totale de la hanche.
Catherine.
Donc vous venez d'être opérée d'une prothèse de la hanche?
Oui, oui.
C'est ça. Et vous avez quel âge?
27 ans.
D'accord. Et donc, vous vous demandez comment va se passer votre sexualité après cette opération? Pour l'instant, vous êtes encore convalescent, c'est ça?
Oui, oui, je suis à l'hôpital actuellement.
D'accord. Alors, habituellement, quand on a une prothèse de hanche, quand on est opéré, au bout de quelques jours, même une semaine, les gens disent « mais c'est génial, je n'ai plus mal, je me sens super bien ». Donc ça devrait plutôt vous apporter des choses très positives. Est-ce que vous aviez beaucoup de douleurs avant?
Pas tellement que ça, mais en ce moment, quand je bouge, quelques douleurs que je ressens au niveau de la hanche.
Et vous en avez parlé avec votre femme ou votre compagne? C'est un sujet que vous avez osé mettre sur la table?
Bon, pas maintenant, comme je suis à l'hôpital. Donc, au retour, on va essayer d'en parler.
Parce que vous avez eu votre prothèse de hanche parce que vous aviez une luxation de hanche, c'est ça?
Effectivement.
Parce que en fait, si vous voulez, il y a plusieurs cas où on a une prothèse de hanche. Et dans votre cas, vous allez sûrement avoir besoin de rééducation. Parce qu'en fait, on met la prothèse, mais au niveau de l'articulation, ça va marcher très bien. Normalement, c'est ce qui se passe avec les prothèses de hanche, parce que ça fait des années que ça existe. Par contre, il faut un petit peu de rééducation parce que tous les ligaments qui, à cause de la luxation de hanche, fonctionnaient peut-être pas de la même manière qu'avec une prothèse qui est bien mise en place, vous allez peut-être avoir des douleurs à cause de ça et donc vous allez sûrement avoir des exercices de rééducation à faire. Mais sur la durée, normalement, vous devriez être gambadé comme un lapin. Et avoir des rapports sexuels.
Oui, et si je peux me permettre, Catherine Solano, peut-être au début, chercher des positions où les relations sexuelles sont peut-être plus faciles, moins douloureuses en tout cas.
Voilà, exactement. C'est que Je dirais tout le monde a des positions sexuelles qui sont pas faciles, même quand on est en bonne santé, parce qu'on n'est pas tous anatomiquement fait pareil. Et donc, quand on a des douleurs, que ce soit à la hanche ou ailleurs, bah, il faut trouver les positions confortables. Et en tant qu'être humain, bah, c'est beaucoup plus facile que les animaux. On a plus de variété, on a des bons lits. Et donc, normalement, vous devriez trouver plusieurs positions, même où vous serez à l'aise et où ça se passera très bien.
Donc, un peu de rééducation, oui. s'il fallait résumer votre réponse, Catherine, un peu de rééducation. Et puis voilà. Des positions où les relations sexuelles sont possibles dans un premier temps. Êtes-vous rassuré, Mamadou ?
Oui, ça va vraiment, ça va.
Je vais vous dire quelque chose, même j'ai un collègue qui avait une arthrose de hanche, donc c'est peut-être un peu différent de votre luxation de hanche, mais il me dit, mais d'ailleurs je lui dis, mais qu'est-ce que tu as ? Tu boites ? Il me dit, bah, je vais me faire opérer de la hanche. Une semaine après, il me disait, j'étais de retour à la salle de gym et ça allait, quoi. C'est pour vous dire qu'à l'heure actuelle, c'est vraiment très au point.
Bon rétablissement, Mamadou, et merci de nous avoir appelé de Bamako, au Mali. 33 1 84 22 75 75. Le témoignage d'Angela. Bonjour.
Bonjour.
Vous nous appelez de Paris. Nous vous écoutons avec Catherine Solano.
Oui, en fait, c'est pour donner un témoignage. Je suis en couple avec mon compagne. Il a été amputé de tibia. C'est vrai qu'au début, je pensais que ça me dépasserait, à cette situation. Mais j'ai voulu faire connaissance, le rencontrer. Et bon, petit à petit, je suis tombée sur son charme, son sex appeal. Sa sensualité, ben, j'étais séduite comme quelqu'un normal. Et maintenant, on est heureux, on s'éclate. Notre sexualité marche à 100%.
Donc, votre mari s'est fait amputer du tibia. Vous pensiez dans un premier temps que ça allait compliquer vos relations sexuelles, et visiblement pas du tout. Ce qui est intéressant, Catherine, en écoutant Angela, c'est que déjà, son mari assume son handicap.
Ah oui, voilà, ça. Il s'est pas dit « je vais jamais pouvoir séduire une belle femme », il s'est dit « j'ai toutes mes chances quand même ». Et ce qui est intéressant aussi dans ce que vous dites, c'est que effectivement un handicap ou même une maladie, ça peut gêner. Donc ça vous a gêné au début quand même. Vous vous êtes dit « est-ce que je vais arriver à dépasser ça ?» Et finalement, il faut accepter qu'on puisse être un peu gêné, bah, c'est normal, on n'est pas habitué. Et puis finalement, ce que j'aime bien ce que vous dites « notre sexualité est à 100% normale ». C'est-à-dire que bah on s'adapte à la personne. À la limite, je vais dire, un homme qui a un très gros ventre, bah sa femme, elle l'a peut-être connu mince, elle va s'adapter. Ça pourrait être aussi gênant. En fait, on s'adapte et on peut profiter à 100%. Et comme vous dites, c'est quand même une personne normale.
Effectivement. Angela, merci de nous avoir appelé et d'avoir témoigné au micro du docteur Solano. On repasse au standard avec une autre question et un témoignage, celui de Youssoufa. Bonjour.
Bonjour Juan, bonjour au docteur Catherine Solano, bonjour à tous les auditeurs de la radio RFI.
Vous êtes à Yaoundé au Cameroun, nous vous écoutons.
Exactement. Alors Juan, mon problème est triste et très pathétique. En fait, je sors avec ma petite amie, ça fait 5 ans maintenant, et il y a de cela 2 ans, on n'a plus de rapport sexuel, nous sommes comme ça là. Elle a commencé à m'avouer en janvier 2015 qu'elle a des problèmes au niveau de sa poitrine. À chaque fois qu'on passe à l'acte sexuel, elle ressent une douleur au niveau de la poitrine gauche et une fatigue générale. Bon, entre-temps, moi, j'étais encore étudiant, je suis au chômage. Elle aussi, elle est orpheline de père. Nous sommes allés quand même à l'hôpital avec le peu de moyens que j'avais. On a fait l'électrocardiogramme. Et le docteur, le cardiologue a fait ce qu'il a pu faire. Il nous a dit qu'elle a un problème cardiaque, mais sans précision. Elle a dit qu'elle a un souffle cardiaque, je ne sais pas, un souffle systolique.
Systolique.
Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Mm-hmm.
Ah bah justement, docteur Solano, le souffle systolique, pour que nous sachions de quoi nous parlons et de quoi nous parle Youssoufa.
Ça veut dire que quand on écoute les bruits du cœur, il y a un souffle que normalement on n'entend pas au moment de la systole, c'est-à-dire quand le cœur se contracte et quand le sang est éjecté dans l'aorte. Donc,
Et visiblement, ce symptôme pose problème à votre compagne dans les relations sexuelles, Youssoufa.
Exactement, ça pose énormément de problèmes. Vous savez que ça fait plus de 2 ans qu'on ne passe plus à l'acte comme avant. Donc, ça m'inquiète beaucoup. Et maintenant, présentement, je suis au chômage. Elle aussi, elle est orpheline, comme je vous disais. Et ça me manque tant que même de la pousser d'aller se livrer à la prostitution pour faire ignorance son problème cardiaque. Et là, je ne sais pas ce qu'il faut faire exactement. Le docteur nous a demandé d'aller faire des examens plus approfondis et complémentaires pour poursuivre le traitement. Mais là, je suis à plat. Qu'est-ce que je peux faire pour retrouver ma vie d'avant?
Mais alors, une question, c'est est-ce que votre amie, elle a des difficultés quand elle marche ou quand elle monte les escaliers aussi, quand elle fait un effort?
Oui, quand elle fait des efforts, elle a mal, elle a mal.
Elle a mal et elle est essoufflée aussi, elle est fatiguée aussi, elle se sent pas bien. Donc, ben, ça veut dire que, parce que si vous voulez, il y a deux possibilités, c'est soit pendant un rapport sexuel, elle se sent pas très bien, elle a des douleurs parce qu'elle est stressée, soit c'est parce que son cœur a vraiment quelque chose. Et dans ces cas-là, c'est le côté effort physique qui peut la fatiguer. Ça veut dire que dans tous les efforts physiques, elle est peut-être fatiguée ou elle a mal à la poitrine. Et dans ces cas-là, ça veut dire qu'il faudrait réussir à faire un bilan pour voir vraiment ce que c'est et ce qu'on peut faire, parce qu'il faut la soigner, quoi, s'il y a quelque chose vraiment.
Et au moment des rapports sexuels, peut-être là aussi, comme le premier auditeur, essayer de trouver des positions qui fatiguent moins.
Qui la fatiguent le moins possible. Par exemple, il faut absolument qu'elle reste allongée. Voilà, c'est ça. Parce que si vous voulez, on considère qu'un rapport sexuel, c'est l'équivalent de monter 2 étages à pied. Donc, au niveau de l'effort physique. Hein. Donc, quelqu'un qui ne peut pas monter deux étages à pied sans être mal, c'est vrai que pendant un rapport sexuel, ça peut être difficile. Néanmoins, avec des positions où il n'y a pas du tout d'effort, où c'est elle qui reste allongée sur le dos, vous vous êtes dessus, elle bouge peu, ça peut quand même faire beaucoup de bien, parce qu'en même temps, c'est quelque chose qui fait fabriquer des hormones et des endorphines et qui détend beaucoup, et donc ça peut aussi lui faire du bien.
Youssoufa, a-t-on répondu à vos questions?
Oui, très bien.
On vous souhaite bon courage et bonne journée à Yaoundé. Merci à vous. Comment avoir une sexualité épanouie lorsqu'on souffre d'une maladie chronique ou d'un handicap? Vos témoignages, vos questions, 33 1 84 22 75 75. Vous dialoguez en direct avec le docteur Catherine Solano. Bonjour Liliane.
Bonjour Juan, bonjour docteur.
Vous nous appelez également du Cameroun. Vous êtes à Yaoundé.
Oui, oui.
Nous vous écoutons.
Alors, voilà. Moi, j'ai été très malade il y a quelques mois. J'ai passé un mois à l'hôpital et les médecins m'ont diagnostiqué un paludisme cérébral. Alors, pendant tout ce temps où j'étais à l'hôpital, mon compagnon a veillé, il a vraiment veillé sur moi. Maintenant, je vais mieux. Le problème, c'est que depuis que je suis sortie de l'hôpital, ça doit bien faire 2 mois, je n'éprouve plus d'envie sexuelle, rien du tout. En fait, c'est comme si mon corps était resté coincé dans la maladie. Je ne sais pas quoi faire, en fait. Je ne sais pas comment lui expliquer que ce n'est pas que je ne l'aime plus, c'est juste que je n'arrive plus à avoir de désir sexuel tout court. Je ne sais pas trop.
Déjà, vous en parlez avec votre compagnon, puisque vous lui dites « ce n'est rien contre toi, c'est juste la fatigue et la maladie ». Donc, vous en parlez, c'est un sujet qui n'est pas tabou entre vous.
Oui, on en parle, mais je vois bien que ça commence à l'agacer.
Alors, ce qui est important, c'est que quand on a une maladie quand même grave, parce que vous êtes resté un mois hospitalisé, on est extrêmement fatigué après, surtout quand c'est quelque chose qui atteint le cerveau. Je dirais ce que vous décrivez, par exemple, des personnes qui ont un AVC. Bon, ça n'a rien à voir avec le paludisme, mais le cerveau a eu un choc, si vous voulez, suite à la maladie. Et pendant souvent des mois, on peut être très fatigué. Donc, c'est pas quelque chose de psychologique. Si vous voulez, c'est pas forcément que vous restez coincé psychologiquement dans la maladie. C'est aussi que physiquement, votre corps n'a pas récupéré. Et donc, quand on est très fatigué, la fonction sexuelle se met entre parenthèses.
C'est-à-dire que la fatigue bloque en quelque sorte la sexualité.
Exactement. La fatigue bloque la sexualité parce que c'est comme si le corps se disait, bon, il faut que je survive, que je retrouve mon énergie. Et comme la sexualité, c'est pas vite, je m'occupe du reste et la sexualité, je la mets entre parenthèses, on verra plus tard. Donc ça, il faut lui expliquer que c'est vraiment, si vous voulez, vous êtes en période de convalescence parce que vous dites ça fait juste quelques mois, ça va s'améliorer petit à petit, mais ça prend souvent plusieurs mois, ça peut prendre 6 mois. Ça m'embête de vous dire ça parce que vous dites ça fait à peu près 2 mois, mais alors une autre chose quand même, c'est que on peut aussi faire l'amour sans avoir de désir. Je vous dis pas qu'il faut se forcer quand on a un blocage, parce que ça, il faut jamais le faire. Mais si vous dites, moi, j'ai pas tellement envie, on peut se faire des petits câlins et se dire, bah, je fais quand même l'amour. Et après, vous vous dites, est-ce que c'était agréable quand même? Et si c'était agréable quand même, eh ben, ça peut vous aider à recommencer une vie sexuelle parce que, comme on dit quelquefois, parfois l'appétit vient en mangeant.
Et retrouver également la confiance à ce moment-là.
Retrouver aussi la confiance et puis faire que votre ami soit plus à l'aise aussi parce que s'il commence à se bloquer, en avoir marre, ben, vous allez avoir encore moins envie. Vous voyez, parce que s'il est un petit peu agressif, ça vous donnera pas envie. Donc, peut-être qu'il faut essayer d'avoir un rapport sexuel tout en lui disant, tu sais, j'ai pas tellement envie, mais j'ai envie qu'on recommence pour réamorcer tout ça.
Liliane?
Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui. C'est vrai que ça me paraît une bonne idée. Je vais essayer.
Bon.
Par contre, si c'est horrible, faut pas vous forcer parce que si on dit non, mais je peux vraiment pas, c'est affreux, ça me fait mal, je peux pas, il faut pas insister parce que ça peut bloquer. Par contre, si vous dites oh, c'était moins bien qu'avant, mais c'était bien à 20%, bah, la fois d'après, ça sera 30 et ça va recommencer.
Bien sûr, et comme on dit, vous connaissez cette expression, Catherine Solano?
Non.
Bah, si, l'appétit vient souvent en mangeant.
Mais oui.
Donc voilà. Merci à vous, Liliane. Bonne journée à Yaoundé. Il nous reste, 5 minutes avant de marquer une pause pour le point complet sur l'actualité. Sophie, bonjour.
Bonjour, Juan.
Vous nous appelez...
Bonjour, Sophie.
Pardon, Sophie, je vous ai interrompu. Vous nous appelez de Paris, vous avez 24 ans, nous vous écoutons.
Je suis paraplégique, j'ai beaucoup de problèmes liés à la paraplégie. J'aimerais savoir comment sexuellement ça va se passer. Bon, déjà, là-bas, je suis plus seule. Et j'ai beaucoup d'appréhension. Déjà, les problèmes de motricité, parce que je me dis, j'embauche. On n'a pas forcément une très grande palette de positions. Après, il y a des problèmes respiratoires, j'ai pas forcément beaucoup de souffle. Après, j'ai des problèmes de sensibilité liés au handicap. Du coup, je me dis, c'est le frisson de la caresse. Je la sens même pas. Il y a des problèmes de sensibilité dans la partie sous les genoux. Mais en haut de la lésion, ça marche. Et puis, il y a le rapport au corps. Il y a des pieds qui maigrissent par rapport à l'atrophie. Il y a des bras, par exemple, qui prennent du volume parce qu'on utilise beaucoup ses bras. Ce qui fait que dans la féminité, j'accepte déjà pas mon corps. Et puis, il y a des spasmes, des contractions musculaires. Enfin, des problèmes, j'en ai plus.
Oui, à vous entendre, vous en avez beaucoup, Sophie, mais Catherine Solano vous écoute attentivement, elle prend des notes. Juste une information qui peut peut-être nous aider davantage à vous apporter une solution. Vous avez donc 24 ans et vous êtes paraplégique depuis combien de temps? Depuis la naissance ou depuis quand? J'ai pas bien entendu.
Non, juste depuis 8 ans. C'est un début de 8 ans.
Depuis l'âge de 18 ans.
Non, c'est... depuis 7 et demi, 8 ans.
Depuis 7 ans et demi.
Ah, depuis
d'accord.
7 ans et demi, très bien. Que répondre, Catherine?
D'abord, je vais dire ce que c'est qu'être paraplégique quand même, parce que ça veut dire que votre moelle épinière a été touchée, je sais pas par quoi, peut-être par un accident, et que du coup, au niveau de vos jambes, vous êtes paralysé, ça fonctionne pas, mais que le haut, comme vous disiez, vos bras, ben, sont bien musclés, parce que quand on est paraplégique, souvent, on a un fauteuil roulant, et on le fait fonctionner avec ses bras, et on se sert beaucoup de ses bras, donc ils sont bien musclés, c'est ça?
Oui, c'est ça, docteur.
Voilà. Et alors, j'ai plein de choses à vous dire. D'abord, c'est que vous avez plein de problèmes, mais vous avez l'air d'avoir quand même l'énergie et la joie de vivre. Et ça, c'est important, il me semble. Voilà. Et puis, vous avez dit, je suis pucelle. Et donc, c'est vrai que avant les premiers rapports sexuels, tout le monde a de l'appréhension. Même quand on n'est pas en situation de handicap, tout le monde a beaucoup de peur. Et en général, d'ailleurs, on a ces premiers rapports sexuels quand le désir et l'envie d'en avoir devient plus forte que nos appréhensions. Et si vous n'en avez pas eu, ça veut dire que vous avez encore plus d'appréhension pour le moment que de peur, mais que si vous nous appelez, c'est que c'est en train de diminuer et que ça devrait bientôt venir, à mon avis. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que peut-être que vous avez peur par rapport à votre handicap, et c'est vrai que quelqu'un peut être gêné au début, on l'a entendu avec, c'est Angela qui nous appelait, qui disait au début, mon mari est amputé au-dessus du genou, voilà, et donc ça la gênait, et quand on connaît la personne, elle dit en fait il est à 100% normal, donc c'est ça. Et donc, chez vous, en plus, je crois qu'on va pas avoir assez de temps
voilà,
dans les infos.
Exactement, Catherine.
Après.
On va marquer une pause avec Catherine Solano. On va retrouver la rédaction. Et on vous retrouve, Sophie, juste après. Vous continuez tous à nous rejoindre, à nous appeler. On a envie de vous entendre. 33 1 84 22 75 75. Et rendez-vous également sur la page Facebook RFI Priorité Santé. On se retrouve, c'est promis, dans 3 minutes.
Priorité Santé. Juan Gomez.
Priorité santé aujourd'hui avec le docteur Catherine Solano, médecin sexologue. Nous parlons de sexualité et maladie. Alors, quelle maladie? Eh bien, celle qui peut vous faire penser que la sexualité devient difficile, et ce, quelle que soit cette maladie. Alors, appelez-nous pour en parler, car il est important de faire tomber les idées reçues. Oui, quand on est malade, quand on est handicapé, âgé, on a le droit à une vie sexuelle. Et nous sommes là pour vous écouter. Catherine Solano répond à vos questions. Elle vous conseille. Elle vous aide à trouver des solutions. 33 1 84 22 75 75. Alors Catherine Solano, docteur Solano, juste avant le flash d'information, nous avions Sophie qui est toujours en ligne. Sophie de Paris, rebonjour.
Rebonjour.
Voilà, vous nous disiez donc avoir 24 ans, être paraplégique, et vous vous posiez évidemment une multitude de questions concernant l'éventualité d'un rapport sexuel, du premier rapport sexuel, docteur Solano.
Voilà, alors ce que je voulais vous dire, Sophie, surtout, c'est que normalement, et je dis normalement parce que c'est un avis personnel, la sexualité, la première fois, ça devrait commencer petit à petit. Malheureusement, des fois, maintenant, à cause de la pornographie un petit peu, les jeunes veulent aller beaucoup trop vite droit au but. Donc normalement, je dirais dans l'idéal, la sexualité, ça commence petit à petit, je m'explique. C'est-à-dire qu'habituellement, deux personnes qui se plaisent vont commencer par se prendre par la main, se toucher la main. Ensuite, vont s'embrasser, donc des baisers. Ensuite, se faire des petites caresses sur le visage et au-dessus des vêtements. Ensuite, comme on dit, c'est au-dessus de la ceinture, parce qu'on n'ose pas encore aller plus loin, donc des caresses au niveau des seins, du torse, etc. Et c'est seulement après, en général, qu'on passe à des caresses plus intimes et seulement après encore qu'on a des rapports sexuels. Donc, ce que je veux dire, c'est que la première fois, c'est normalement, habituellement, c'est pas « tiens, on s'est croisés et dans une heure ou demain, on décide d'avoir notre premier rapport sexuel ». C'est dommage quand ça se passe comme ça parce que on perd toute cette progression qui fait qu'on s'apprivoise, qu'on apprivoise le corps de l'autre, que on sait que ça, ça lui fait mal ou ça, il aime pas ou au contraire, ça, il aime. Et du coup, si vous voulez, c'est vraiment ce que je vous souhaite d'avoir une découverte progressive parce que du coup, vous dites j'ai plein de problèmes et j'ai plein de peurs finalement. Bah, plus vous serez en confiance et à l'aise avec l'autre, moins vous aurez de peur et plus l'autre personne va s'habituer à vous, connaître ce qui est faisable ou pas. Et plus vous pourrez en rigoler parce que vous aurez une certaine intimité.
Sophie, je peux vous poser une question. Vous avez déjà eu l'occasion d'avoir, sans parler de relations sexuelles, ne serait-ce qu'un un rapport de charme ou de séduction avec un homme?
Ah oui, bien sûr.
Oui, donc à ce niveau-là, il n'y a aucun problème. C'est la suite, en fait, qui vous pose des réticences.
Et ce dont je parle, des petites caresses, aller un petit peu plus loin sans avoir vraiment une première fois.
Pardon?
Est-ce que vous avez eu une ou plusieurs expériences ou rencontres où vous avez eu des petits câlins, des caresses qui vont un peu plus loin que juste la séduction, mais sans aller jusqu'au rapport sexuel?
Oui.
Et là, vous vous sentiez à l'aise?
Bon, c'était là. Après, j'ai pris responsabilité. Après, j'ai beaucoup d'appréhension. Je suis pas forcément à l'aise, tu vois.
Voilà. Et ben justement, quand ça se passe comme ça, l'idéal, c'est de dire à votre ami, ben moi, je suis pas très à l'aise. Je veux qu'on aille doucement, petit à petit. Et si vous voulez, quand on se fait des caresses une fois, on peut être mal à l'aise. Si c'est deux, trois, quatre, cinq fois, on devient de plus en plus à l'aise et on va de plus en plus loin, petit à petit. C'est comme ça que ça devrait se passer naturellement, en fait.
Des couches, donc c'est pas évident, je peux pas, faut pas me coucher sous la ceinture, j'ai des couches qui j'arrive pas, je me dis les autres on enlève le string, moi ce sont les couches qui
les couches pas.
Oui, les couches, à cause de l'incontinence, maintenant, mais les couches ne pas fuiter.
Vous avez peur d'avoir des fuites. Alors, en général, est-ce que vous vous sondez ou pas?
Non, je ne me sonde pas, je sens. Mais en général, comme je ne suis pas chez moi, quand je sors, je ne suis pas forcément chez moi et ce n'est pas forcément adapté. Je préfère avoir. Je ne veux pas mettre les gens mal à l'aise. Il y a une minute couchée, voilà, et remis dedans.
Parce qu'à ce moment-là, ce qu'il faut, c'est en parler avec les personnes qui vous soignent, qui vous suivent, et dire qu'est-ce que je peux faire, c'est quoi la solution. Parce que ça vous paraît peut-être pas un problème médical, mais c'en est un. Et souvent, il y a des personnes qui disent, bah, moi, je me sonde d'avoir un rapport sexuel, comme ça, je suis tranquille, je sais que j'aurai pas de fuite, ma vessie est vidée, vous voyez? Ou qui ont des techniques pour ça. Ah ben oui, il faut en parler parce que vous voyez, quand on est médecin, on n'est pas seulement là pour soigner les gens, mais on est là aussi pour les aider à avoir une vie la plus normale possible et à faire tout ce qu'on peut faire, y compris des rapports sexuels. Hein, pour trouver la meilleure solution pour vous.
Merci Sophie, merci à vous et bon courage. Le docteur Solano vous écoute, vous répond, vous conseille en direct sur l'antenne d'RFI. Bonjour Marcel.
Et bonjour.
Bienvenue, vous nous appelez de Bobo-Dioulasso, Burkina.
Oui, effectivement.
Nous vous écoutons avec le docteur Solano.
Bonjour docteur Solano, bonjour chers auditeurs. Voilà, en fait, moi, le problème, c'est à l'issue d'un traitement lié à la dépression, qui a eu ce problème de libido, quoi. Bon, je n'arrive plus à satisfaire ma libido comme avant. Bon, je suis allé voir mon médecin traitant, je l'ai expliqué, j'ai dit, est-ce que c'est lié au produit que je prenais? Bon, il m'a dit effectivement que c'est ça, que mais ça va passer. Mais jusqu'à présent, je ne vois aucune amélioration. Bon, je ne sais pas si vraiment ça va jouer sur ma vie sexuelle, quoi.
Vous vous demandez donc, si je comprends bien, si le médicament que vous prenez a forcément une répercussion sur votre vie sexuelle, sur les troubles érectiles.
Exactement. Puisque non, je n'avais pas ce problème avant la maladie, le traitement. Maintenant, c'est à l'issue du traitement qu'il est constaté ça. Je n'arrive plus à satisfaire mes besoins sexuels comme avant.
Catherine, on peut peut-être demander, excusez-moi, quel traitement prend notre auditeur, Marcel?
Oui, exactement.
Quel traitement prenez-vous?
Bon, je prends des traitements de d'amitriptyline et d'hélispéridone et contre Aratane. Bon, j'ai demandé à mon médecin de voir s'il peut diminuer la dose. Là, il dit que non, lui, il ne peut pas diminuer avant que il y ait des signes d'amélioration.
Ouais. Alors, docteur Solano. Je vais vous, est-ce que vous avez aussi des problèmes de libido, de désir ou pas? Vous avez du désir sexuel ou moins?
Bon, ça vient un peu, mais bon, pas trop comme avant.
Moins qu'avant. Alors, il y a deux choses importantes, c'est que déjà, la dépression par elle-même a tendance à diminuer la libido. Donc, c'est pour ça qu'il faut la soigner. Parce que c'est pas forcément lié aux médicaments. Ensuite, les médicaments, effectivement, peuvent donner des troubles de l'érection. Donc, il y a plusieurs choses à faire. C'est que votre médecin a raison, il faut pas arrêter les médicaments parce que si vous retombez en dépression, ça sera encore pire. D'accord? Ça, c'est important. Mais vous pouvez quand même faire des choses. La première, c'est demander à votre médecin un médicament pour l'érection, comme ce qu'on appelle la fameuse petite pilule bleue. Bon, maintenant, c'est en générique dans les pharmacies, donc beaucoup moins cher qu'avant. Donc, il faut surtout les acheter dans les bons endroits. Mais ça, vous pouvez bénéficier de ce genre de traitement qui va beaucoup vous aider. En plus, je vais vous dire une chose assez marrante, c'est qu'il y a une étude qui a montré que le Viagra, à l'époque, qui n'était pas en générique, quand les hommes en dépression en prenaient, eh bien, ça améliorait énormément leur dépression parce que ça leur remontait le moral de retrouver une vie sexuelle. Donc, c'est aussi un traitement de la dépression de pouvoir avoir des rapports sexuels.
Donc, continuez le traitement en cours, voilà. Évidemment, pour faire face à la dépression. Et n'hésitez pas donc à consommer cette petite pilule bleue, Viagra, pour ne pas citer...
Ou Sildenafil. Voilà. Et puis, un autre conseil vraiment extrêmement important, enfin un ou deux conseils, c'est qu'il faut faire de l'exercice physique. C'est extrêmement important contre la dépression et pour l'érection, parce que quand on fait de l'exercice physique, on a deux fois moins de problèmes d'érection. Surtout ne pas fumer, je ne sais pas si vous fumez, ou prendre du cannabis, parce que pour l'érection, c'est catastrophique. Est-ce que vous fumez?
Oui, je suis.
Ah bah oui, mais voyez, vous dites, j'ai peur que ça soit mon médicament, mais moi, je vais vous dire, j'ai peur que ça soit le tabac qui fasse que vous avez des moins bonnes érections. Parce que si vous voulez tabac plus médicament plus dépression, bah, ce qu'il faut arrêter, c'est le tabac. Faire de l'exercice, et puis bien dormir aussi. Surtout ne pas faire des nuits blanches, etc., parce que c'est très mauvais à la fois pour l'érection et pour les dépressions.
Voilà, Marcel, pour les conseils du docteur Solano. Assetou nous rejoint. Elle est à Abidjan, Côte d'Ivoire. Bonjour Assetou.
Bonjour, Juan Gomez.
Soyez la bienvenue sur l'antenne.
Bonjour à vous.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Oui, moi, je me suis mariée à un homme depuis 2008 et je me suis rendu compte qu'il n'avait qu'un seul testicule. J'ai été très surprise et quand je lui en ai parlé, bon, il m'a dit que ça ne le gênait pas. Il m'a totalement ignorée. Bon, je lui ai dit qu'il devait se soigner, mais il refuse d'en parler. Parfois, je me demande même s'il ne pense pas que tous les hommes sont comme lui, parce qu'il refuse catégoriquement d'en parler. Bon, cela n'entrave pas sa virilité. Bon, il est viril et tout, mais ça me pose un problème. Car au cours de la pénétration, j'ai un sentiment de dégoût. Hein, j'ai un sentiment de... Il y a un goût d'inachevé, quoi. Et puis, apparemment, c'est moi que ça gêne le plus. Parce que quand on est ensemble dans la rue, j'ai l'impression que tout le monde le regarde. Bon, à la maison aussi, il ne se gêne pas pour porter un pantalon serré qui montre tout le volume qu'il a en dessous. Et bon, ça ne le gêne pas, mais moi, ça me pose un sérieux problème. Je suis angoissée et stressée, et je pleure tout le temps. Bon, je n'en parle jamais autour de moi, parce que je me dis que tout le monde a dû constater ça de ses propres yeux. Bon.
Assez tout, excusez-moi de vous interrompre dans votre témoignage. Vous disiez à l'instant, ressentir du dégoût, ça veut dire que lorsque vous êtes avec votre mari, lorsque vous êtes en rapport sexuel, vous ne ressentez pas du plaisir, du désir ?
Non, pas du tout. Au contraire, j'ai pour lui un sentiment de rejet quand il s'approche de moi. Mmh. Parce que vraiment, j'ai du mal à accepter. Cette anomalie, parce que moi je sais que ce n'est pas normal, mais lui il refuse d'admettre qu'il est malade.
Docteur Solano.
Oui, donc quand vous dites mon mari a l'impression d'être comme tout le monde, ben en fait c'est pas vrai, parce que s'il refuse d'en parler, c'est bien qu'il sent qu'il y a un problème derrière tout ça. Alors moi, ce que je peux vous dire sur le plan médical, c'est que quand il y a un testicule qui ne fonctionne pas, par exemple suite à une torsion de testicule, il rétrécit et il peut fondre si vous voulez. Et du coup, le deuxième testicule qui lui continue à bien fonctionner a tendance à grossir, à augmenter de volume pour fabriquer un petit peu plus d'hormones et un petit peu plus de spermatozoïdes. Ce qui fait qu'en même temps, c'est un homme tout à fait normal, puisque son testicule est un peu plus gros, ou plus gros parce qu'il compense le manque de fonctionnement de l'autre qui a rétréci sans doute. Et alors, ce que vous pourriez peut-être dire à votre mari, c'est que maintenant, ce qu'on fait quand un homme a ce genre de problème, c'est qu'on a des implants de testicules en silicone, exactement comme vous savez, les femmes qui se font poser des seins en silicone pour les faire grossir, eh bien, on a des prothèses, des implants de testicules sous anesthésie évidemment locale, on ouvre une bourse, on met l'implant et du coup cet homme-là esthétiquement, il a en tout cas l'air d'avoir deux testicules parfaitement normaux. Donc peut-être que vous pourriez lui dire que ça existe parce que il sent sans doute que ça vous gêne aussi, même et s'il veut pas en parler, c'est parce que ça le gêne et que c'est tabou quand même. Je sais pas ce que vous en pensez.
Bien sûr, mais le problème c'est qu'il en a qu'un seul hein, en réalité. Un seul et puis qui a un poids assez volumineux, hein, à peu près 500 grammes hein, je pense.
C'est normal qu'il ait augmenté de volume par rapport à son autre testicule. Mais alors, ce qui est le plus embêtant de mon point de vue, c'est que en fait, votre homme, d'accord, il a un testicule qui a grossi, qui a compensé l'absence de l'autre, mais ce qui est embêtant, c'est que ça vous gêne énormément parce que effectivement, quand on a du dégoût ou quelque chose qui vous gêne énormément, c'est un sentiment, s'il est très fort, qui empêche le désir. Et du coup, ça bloque la sexualité. Alors, c'est dommage parce que c'est comme si votre cerveau se concentrait là-dessus, alors que finalement, votre homme, il a des érections normales, il a des hormones normales, il a des spermatozoïdes normales. C'est juste que le testicule qui fonctionne pas bien a délégué son rôle à son autre testicule, qui lui fonctionne bien. Donc, c'est en même temps, c'est son corps qui fonctionne bien et qui a compensé cette anomalie. Vous voyez ce que je veux dire?
D'accord, mais y a-t-il des effets négatifs sur ma santé?
Oh, mais pas du tout. Pas du tout, justement non. Notre corps a souvent une solution de sauvegarde quand quelque chose ne fonctionne pas. Vous voyez, par exemple, si une partie du foie ne fonctionne pas, il peut repousser. Si votre thyroïde marche pas très bien d'un côté, l'autre côté peut gonfler pour fabriquer plus d'hormones, etc. Donc c'est non, sur la santé, il y a aucun problème.
Merci à C'est tout d'avoir appelé RFI. Bonne journée à Abidjan, Côte d'Ivoire, au standard au 33 1 84 22 75 deux fois. Oumar nous appelle de Paris. Bonjour Oumar.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons avec le docteur Solano.
Oui, bonjour docteur.
Bonjour Oumar.
Ouais, en fait, moi, mon problème est que depuis en 2013, j'ai eu une maladie de l'infection urinaire. J'ai traité plusieurs fois, mais ça ne va pas. Les docteurs, ils ont décidé de retirer mon testicule gauche. Et du coup, depuis le jour où ils ont retiré mon testicule gauche, j'ai dit, quand je fais le rapport sexuel avec ma femme, je le cache parce que je ne veux pas qu'elle voit que j'ai un seul testicule. Et puis, et quand je fais le rapport sexuel, je ne passe plus de 2 minutes, 3 minutes, quoi. Je termine vite, quoi.
Voilà. Est-ce que vous ressentez visiblement de la gêne, mais est-ce que vous ressentez également de la honte? Puisque vous cachez ce testicule à votre femme.
Je ressens de la honte. Franchement, je ressens, mais même si elle veut allumer la lumière, ça me fait honte, je lui déteins la lumière. Parce que je ne voulais pas qu'elle voit que j'ai un seul testicule.
Quel est votre conseil, docteur Solano?
Ben, écoutez, moi, je dis tout le temps, la honte, ça devrait être uniquement quand on a fait quelque chose de mal. Quand on se dit, là, j'étais nul, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû faire ça. Quand on a un problème de santé, ben, il y a aucune honte à avoir, n'importe qui peut en avoir. Alors, n'importe qui non, une femme peut pas avoir votre problème, mais elle en a d'autres. Et donc, ce que je disais, c'est que on peut faire une prothèse de testicule, on peut vous opérer et mettre dans votre bourse un implant qui aura la même taille qu'un testicule normal et ça se verra plus du tout. Donc ça vaudrait le coup de vous renseigner pour ça si ça vous embête à ce point-là.
Oui, mais est-ce qu'avoir un seul testicule peut avoir des causes dans ta vie, dans les jours à venir?
Mais non, parce que le testicule qui reste, en général, il grossit, il augmente un peu de volume. Pour fabriquer toutes les hormones, vous savez, la testostérone, l'hormone de la virilité, donc il va en fabriquer plus et il va fabriquer plus de spermatozoïdes pour que tout fonctionne normalement. Donc non, il n'y a pas de raison, vous serez tout à fait en forme. C'est juste un problème esthétique après.
D'accord.
Donc vos érections, elles ont pas de... vos rapports sexuels sont plus rapides parce que vous êtes stressé, mais pas parce que vous avez un seul testicule. Et puis moi, je vais vous dire, mon conjoint aurait un seul testicule, ça me gênerait pas plus que ça. Alors je sais bien, je suis sexologue, mais croyez-moi que ceux qui se sont fait amputer d'une jambe, ils diraient, moi je préfère avoir un testicule en moins et le deuxième qui grossit, ça marche.
Et puis on a vu tout à l'heure le témoignage de cette auditrice dont le mari avait été amputé du tibia, qui assumait totalement déjà son corps et qui n'avait aucun problème de sexualité avec son épouse.
Donc vous n'avez aucune raison, ça vous empêche pas d'être un bel homme, d'être un homme charmant, d'être un homme courtois, d'être un homme intéressant, intelligent. Votre intelligence, elle est pas dans le testicule qu'on vous a enlevé, heureusement. Non.
Et parlez-en aussi, Oumar, avec votre femme, puisque visiblement, vous lui cachez toujours.
Bon, alors je me disais, je vais vous dire une boutade, je me disais, bon, le jour où Oumar pourra mettre un t-shirt avec marqué dessus, j'ai un seul testicule et ça me gêne pas, là, et si ça vous dérange, je m'en fiche. Là, non, mais j'exagère, parce qu'on va pas dire des choses comme ça, mais le jour où votre femme sera... Vous savez, si vous en parlez à votre femme, en lui disant, ça me gêne, si votre femme vous aime, elle va vous dire, mais chérie, moi, je m'en fiche, je t'aime comme tu es, c'est dommage si ça t'embête à ce point-là, mais bon, on va pas en faire une maladie, quand même.
Oui.
Hein,
voilà,
qu'est-ce que vous en pensez?
D'accord, merci.
Eh bien, merci à vous de nous avoir appelé. Catherine Solano, on poursuit, les appels nous arrivent. Ils sont nombreux. Beaucoup de réactions sur la page Facebook de l'émission. J'espère qu'on aura l'occasion d'ici la fin de l'émission de répondre au moins à un ou deux auditeurs Facebook. Mais d'abord, priorité au standard. Bonjour, Ostan.
Bonjour, Juan.
Vous êtes à Douala, au Cameroun. Soyez le bienvenu.
Merci, merci à vous. Bonjour, docteur Catherine Solano.
Bonjour, Ostan.
Bon. Voilà, en fait, je souffre d'une hypertension, ça fait un an et demi. Et puis, bon, depuis ce temps-là, j'ai constaté, n'est-ce pas, que je n'arrive plus à faire l'acte sexuel normalement. Mm-hmm. Ça veut dire par là que parfois, pendant l'acte sexuel, je perds complètement mon érection. Puis, je n'arrive plus souvent à avoir une érection complète. Mm-hmm. Donc, mon problème, c'était le suivant. Est-ce que il y a un lien entre l'hypertension et cette faiblesse sexuelle et quelles sont les mesures que je dois prendre pour y remédier?
C'est lié ou pas, Catherine Solano?
Ah oui, alors c'est lié, hein, c'est lié. L'hypertension artérielle, ça abîme les artères et donc y compris les artères sexuelles. C'est pour ça qu'on soigne l'hypertension, c'est pour que les artères ne s'abîment pas. Donc c'est important d'avoir votre traitement, c'est bien d'avoir été dépisté. Et alors, je vais vous raconter une histoire. J'ai un patient qui était comme vous, il vient me voir en me disant j'ai un problème, j'ai des problèmes d'érection depuis que j'ai de l'hypertension. Et il m'a dit, moi j'en ai marre d'avoir de l'hypertension et des problèmes sexuels, je veux guérir tout ça. Qu'est-ce qu'il a fait? fait? Il s'est mis au sport intensif, il a perdu 10 kilos, eh bien, il n'a plus d'hypertension, il a retrouvé ses érections. Donc, ce que je peux vous conseiller, si vous avez du poids en trop, c'est pas forcément le cas. Est-ce que c'est le cas?
Non.
Est-ce que vous faites de l'exercice? Pas forcément les Jeux Olympiques, hein, mais est-ce que vous marchez pas mal? Est-ce que vous faites du sport?
Oui, je marche.
Vous marchez beaucoup?
Oui, je marche. Oui.
Bon, parce que...
Oui. À des fois, j'étais à l'hôpital, j'ai fait des électrocardiogrammes et la radio du cœur, bon, on m'a dit que j'avais une hypertrophie des parois cardiaques.
Ah oui, mais ça, c'est à cause de l'hypertension. C'est pour ça qu'il faut bien prendre votre traitement. Parce que si vous voulez, si les artères sont trop resserrées, le cœur, il va pomper plus fort et donc il se muscle plus fort. Mais c'est signe que vos artères sont trop serrées. Donc, c'est important de prendre votre traitement. C'est hyper important. Donc, le sport, vous fumez pas?
Non, je fume pas.
Ça, bravo, c'est bien. Donc, vous n'avez pas de kilos en trop, vous fumez pas. Donc, alors là, c'est pas de chance, c'est que votre hypertension est génétique. Mais ce qu'il faut que vous fassiez, c'est demander à votre médecin de vous prescrire un médicament comme le sildénafil ou le tadalafil, c'est-à-dire les traitements qui améliorent les érections. Parce que, en plus, c'est plutôt bon pour la tension. Enfin, ça a plutôt tendance à faire baisser un peu la tension parce que ça dilate les vaisseaux. Donc, parlez-en à votre médecin, il vous prescrira un traitement qui vous aidera à retrouver des bonnes érections. Et ça, normalement, ça marche très bien quand on a une hypertension comme vous.
Okay.
Bonne journée, Rostan. Merci à vous. Bonne journée à Douala, au Cameroun. Docteur Solano, un détour tout de même sur la page Facebook de l'émission. Jean-Pierre, qui est en République démocratique du Congo, nous demande « Est-ce que le diabète peut affecter la sexualité ?»
Ah oui, exactement. Mais alors, le diabète affecte la sexualité, surtout s'il est mal soigné et s'il dure plusieurs dizaines d'années. Au début, pas spécialement. Et donc, quand on a un diabète, surtout un diabète de type 2, ce qui est important, c'est de faire plus d'exercices, de perdre du poids, de pas fumer, de pas manger trop salé aussi, parce que pour les artères, c'est pas bon, et de manière à garder des artères le plus longtemps possible en bon état. Et si vraiment on a des problèmes d'érection, bah c'est de demander au médecin de prescrire des médicaments pour l'érection. Faut pas hésiter, parce que pour les hommes qui souffrent de diabète, on en prescrit très facilement.
J'ai une maladie rénale et j'ai tout le temps envie de faire l'amour. Y a-t-il un lien? Nous demande JK du Cameroun.
Bah, a priori, non, je pense pas, mais il faut savoir que quand on a une maladie vraiment qui nous pompe notre énergie, ça peut soit couper le désir, soit au contraire donner envie de vivre encore plus et de se dire mais moi j'ai pas envie de rester un malade, avoir l'étiquette malade, j'ai envie de vivre. Et quelquefois au contraire ça stimule la sexualité.
Allez, on repasse au standard avec le docteur Solano. Bonjour papa.
Oui, bonjour.
Vous êtes à Dakar au Sénégal, soyez le bienvenu, nous vous écoutons.
Merci. Voilà, moi mon cas c'est que depuis que j'ai eu un adénome de la prostate ou bien une infection prostatique ou bien, comme d'autres urologues l'appellent, un syndrome de douleur pelvienne. Je n'arrive plus à avoir mon érection.
Donc, y a-t-il un lien, docteur Solano? Déjà, un adénome de la prostate, pour ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas médecins, ça signifie quoi? C'est une tumeur de la prostate? C'est quoi exactement?
En fait, c'est pas vraiment une tumeur, c'est la prostate qui grossit et qui devient trop grosse au fil des années, et elle a tendance à appuyer sur le canal urinaire, donc les hommes ont du mal à uriner, ont souvent envie d'uriner, sont obligés de pousser pour uriner, et ça, effectivement, ça peut augmenter le risque de problèmes d'érection. Et dans ces cas-là, il y a un traitement qui est très bien, qui s'appelle le tadalafil. C'est un médicament qui a deux effets. On le prend tous les jours en comprimé. À la fois, ça améliore les érections et à la fois, ça relaxe la prostate, ce qui fait qu'on a moins de troubles urinaires. Donc, ça vaudrait le coup de demander à votre médecin, est-ce que vous avez la possibilité de me prescrire un traitement? En particulier, ça s'appelle le tadalafil. C'est ce qu'on appelle le Cialis en nom commercial, mais maintenant c'est en générique. Donc avant, c'était hors de prix de prendre ça. Et maintenant, c'est à un prix beaucoup plus raisonnable.
Tadalafil. Voilà, on vous rappellera, papa, si vous souhaitez, si vous n'avez pas un stylo sous la main et une feuille de papier pour noter ce médicament. Êtes-vous satisfait de la réponse du docteur Solano, papa?
Oui, je suis plus ou moins satisfait de la réponse, mais c'est-à-dire le genre Viagra, on en a tellement pris, mais on dirait que ça n'a plus d'effet sur nous.
Oui, mais alors, c'est pas pareil, ce médicament. C'est un médicament qu'on prend tous les jours, régulièrement, à petite dose, pour améliorer petit à petit les érections la nuit, le matin, et aussi les érections pendant les rapports sexuels. C'est pas un médicament qu'on prend juste avant un rapport sexuel, vous voyez ? C'est différent.
C'est comment ça s'écrit ? C'est comment ça s'écrit ?
T-A-D-A-L-A-F-I-L, Tadalafil.
Ah, merci.
C'est bon, en okay, 5 d'accord. mg, alors je vous donne en 5 mg, un comprimé par jour.
D'accord, merci.
Bon, si c'est noté, tout va bien, sinon ne vous inquiétez pas, l'équipe vous rappelle juste après l'émission, et d'ici là, vous avez le temps d'aller chercher une feuille de papier et un stylo. Merci à vous, papa, il nous reste une petite minute. Une question récurrente, Catherine Solano, qui revient à chaque fois, me dit-on, que vous abordez les questions sexualité. J'ai des hémorroïdes qui m'affaiblissent sexuellement, que puis-je faire ?
Alors, les hémorroïdes, ça ne donne pas de problème sexuel particulier, ça n'a pas de rapport, c'est un peu comme les varices dans les jambes, c'est pas quelque chose qui donne vraiment des problèmes sexuels, sauf que c'est la zone génitale et que ça peut gêner psychologiquement.
Merci beaucoup Catherine Solano d'avoir répondu
Merci
en direct
Juan
aux auditeurs de RFI.
Invité avec vous.
Ah ben moi ça a été un plaisir et un plaisir vraiment d'être avec vous ce matin dans Priorité. Un grand merci évidemment à toute l'équipe qui m'a si gentiment accueilli, Didier Bleu, Ophélie Lassen et Sigrid Azeroual. Demain à ce micro, je l'espère et nous l'espérons tous évidemment, Caroline Paré, et il sera question de chirurgie esthétique. Passez tous une très belle journée à l'écoute des RFI. À bientôt.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance qui vous recommande l'assurance mixte pour protéger celles et ceux qui vous sont chers. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.